Olivier Chambon, bonjour.
Bonjour.
On s'était déjà rencontré une première fois lors de la sortie de votre dernier livre qui s'appelait La médecine psychédélique. Donc on rappelait que vous êtes psychiatre de formation. En même temps, vous pratiquez différentes techniques dont on reparlera par la suite dans l'entretien. Et vous militiez donc dans la médecine psychédélique pour des rapprochements, ou plutôt des ponts, entre les médecins occidentaux, que sont par exemple les psychiatres ou les psychothérapeutes, et des guérisseurs traditionnels, autrement dit les chamans. L'information chamanique dont on prend connaissance dans ce nouveau livre qui vient de sortir, Le chaman et le psy aux éditions Mama, est-elle donc une première étape vers une collaboration bipartite, par exemple?
Alors, dans le livre sur la médecine psychédélique, je parlais de la collaboration des chamans et des psys ou des médecins occidentaux, plutôt dans le domaine de l'utilisation des plantes, hein, des plantes hallucinogènes, de vision, visionnaires. Parce que les chamans ont effectivement tout un savoir-faire qu'il est très intéressant d'incorporer, même dans les protocoles cliniques modernes, dans les recherches cliniques sur les psychédéliques. Là, dans le livre, on parle d'une autre forme de chamanisme, c'est un chamanisme sans plantes, on va dire. Donc le chamanisme au tambour, on va dire, où le chaman et parfois le patient se mettent en transe, mais avec d'autres moyens que les plantes. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être le tambour, ça peut être les hochets, ça peut être plein d'autres moyens, bien sûr, ou des exercices de méditation qui conduisent à être ouvert, à être canal, à avoir des perceptions extrasensorielles, à voyager dans des mondes, les mondes d'en bas, du milieu et d'en haut pour les chamans. C'est un chamanisme, moi, que j'ai rencontré lors des formations, des séminaires de base, puis des séminaires avancés de la FSS, qui est la Foundation for Shamanic Studies, qui est donc une fondation qui a été créée par Michael Arner, un anthropologue américain, un professeur qui a étudié le noyau commun de tous les chamanismes dans le monde entier. Et il en a extrait les techniques de base qu'utilisent tous les chamans, c'est-à-dire, et qu'on peut utiliser en psychothérapie, dans d'autres états modifiés de conscience, notamment à travers l'hypnose, l'EMDR, comme les structures de base, c'est le recouvrement d'âme, l'extraction chamanique, le travail de psychopompe avec les âmes des défunts, travailler avec les esprits de la nature, puis le travail avec les animaux de pouvoir, ou avec les animaux alliés, ou les esprits alliés. Voilà.
Alors justement, on connaissait déjà votre ouverture d'esprit, puisque vous n'êtes pas, à proprement parler, un psychiatre conventionnel. Vous vous intéressez à beaucoup de choses, vous venez de nous citer quelques-unes. Vous révélez donc dans ce livre une nouvelle facette, je dirais, de votre univers. C'est donc, vous venez de parler de la fondation de Michael Arner. Ouais. Concrètement, comment ça s'est passé pour vous?
C'est le hasard qui m'a mis sur les traces de ce chamanisme-là. C'est un ami qui m'en avait parlé. J'ai fait le séminaire de base. La plupart se passent en Suisse, mais maintenant il y en a en France. Notamment Laurent Hugli, qui est le co-auteur du livre, anime et responsable de l'animation de séminaires de chamanisme en France. Donc moi j'ai fait les principaux, ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire sur les différents domaines des chamans. Et là je suis en train de m'engager dans une formation qui va commencer cette année, qui est francophone mais pour l'ensemble de l'Europe, donc d'approfondissement sur 3 ans du chamanisme. Et je travaille moi-même, enfin j'ai déjà fait à quelques reprises rares pour des patients qui me l'ont demandé, mais alors là je les ai amenés à la montagne, des séances plus typiquement chamanique, mais en hypnose, je fais des équivalents d'extraction chamanique ou de recouvrement d'âme, et c'est drôle, ou d'animaux de pouvoir lors de voyage, et c'est intéressant parce que j'ai découvert que c'était simple et puissant. Alors bon, je découvre pas, c'est pas moi qui l'ai découvert dans quelque sorte, parce que l'hypnose, il y a probablement aussi du chamanisme, il y a des racines dedans, donc, mais en tout cas, je trouve que pour un psychothérapeute, c'est drôlement intéressant de croiser nos techniques psychothérapeutiques modernes avec des techniques psychothérapeutiques. On appelle ça aussi une technologie de la conscience, comme les chamans. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que vous greffez donc au noyau dur qu'est la théorie pure psychiatrique des techniques? On a l'impression que vous ne cessez de grandir et d'apprendre.
Oui.
Est-ce que vous avez vous-même fixé pour vous une finalité ou un objectif qui soit d'ordre professionnel ou un ordre qui est plutôt celui de l'intériorité?
Alors, il n'y a pas de théorie psychiatrique dans le sens, dans la psychiatrie, il y a de nombreuses théories.
Ouais.
Il y avait la psychanalyse à un moment donné qui était prépondérante en France, mais ensuite, la Gestalt, les thérapies comportementales et cognitives, la thérapie systémique, et puis plein d'autres thérapies corporelles sont venues s'ajouter à l'armamentarium, je ne sais pas comment on dit ça, l'arsenal thérapeutique et théorique du thérapeute. Et au départ, justement, moi, je m'étais intéressé, et il y a d'ailleurs la troisième édition du livre, Les bases de la psychothérapie, qui paraît là dans un mois. Je m'étais intéressé justement à une thérapie intégrative, c'est-à-dire qui utilisait les concepts majeurs en essayant de les rendre homogènes les uns envers les autres, cohérents les uns envers les autres des principales psychothérapies, mais aussi qui permettait d'utiliser pour un patient donné, finalement, l'outil théorique ou pratique qui était le mieux pour lui. C'est-à-dire, je n'essayais pas d'être, on appelle ça le lit de Procuste, c'est-à-dire, Procuste, c'était dans la mythologie, un être qui accueillait ses hôtes chez lui, et il avait un lit. Et quand les gens étaient trop grands, il leur coupait tout ce qui dépassait. Et quand les gens étaient trop petits, il les faisait tirer par des chevaux pour qu'ils soient à la taille du lit. Or, on essaye de pas faire ça aux patients. Et on essaye de pas les déformer eux ou mal les entendre en les adaptant à une théorie toute faite, mais au contraire d'adapter théorie et pratique à ce qui leur convient le mieux. Donc, j'avais commencé comme ça. Donc, en fait, on peut pas dire que je grève sur une théorie précise des éléments. C'est plutôt que maintenant, avec la découverte des propriétés des états modifiés de conscience, je m'intéresse plus à la conscience. En s'intéresser à la conscience, ça permet d'ailleurs de mieux percevoir l'ego. Parce que les thérapies occidentales travaillent sur l'ego. Le rendre plus fonctionnel, plus aimant, moins érotique, moins angoissé, moins limité par des croyances, ça certes. Mais elle ne s'intéressait pas justement à cet observateur, à cette conscience qui est au-delà de l'ego, et qui elle est déjà dans ce que les yogis appellent le Satchitananda, c'est-à-dire pure joie, félicité. Et moi je m'intéresse plutôt à ça maintenant. C'est pour ça que on va dire que dans la thérapie transpersonnelle, hein, parce qu'en France il y a une école par exemple l'IRET ou le GRET qui forment des thérapeutes transpersonnels, eux ont déjà inclus le chamanisme ou d'autres pratiques, hein, d'état modifié de conscience dans leur approche. Donc ça ajoute on devrait dire une sorte de quatrième dimension, c'est-à-dire que les trois dimensions c'était le patchwork là, des différentes thérapies dans une théorie intégrative, et puis quand on en vient à la conscience et à ces états modifiés, là, on décolle au-delà de l'ego et on va dans un domaine qui a beaucoup plus de potentialités thérapeutiques. Parce que les gens valent mieux que juste être des êtres adaptés qui sont capables, comme disait Freud, de travailler et d'aimer. Ils sont capables de beaucoup plus, on est beaucoup plus grands que ce qu'on pense, en fait.
Ce dont vous parlez, est-ce que c'est pas justement ce que les chamans appellent le corps astral, justement, ou cette intelligence en nous, ou le soi dont parlait Jung, c'est ça dont vous nous parlez là.
Oui, voilà. Alors ça a différents termes, hein, selon les écoles de pensée orientales, occidentales, mystiques, etc. On peut appeler ça le soi supérieur, oui, ou la conscience avec un grand C.
Dans ce livre, donc, je rappelle, le chaman et le psy. On a l'impression de beaucoup plus apprendre d'ailleurs sur le chamanisme. Oui. Alors je ne sais pas si c'est voulu, vous allez nous le dire juste après. Et ses techniques, les trois mondes notamment, mais aussi, et ça vient beaucoup de votre part, sur les conclusions actuelles de la physique quantique.
Oui, alors tout à fait. Alors les chamans, ils utilisaient déjà tous les principes de la physique quantique sans que ça ait été formalisé comme ça l'est maintenant par les physiciens modernes. Et alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chamanisme dans le livre parce que justement il est mal compris, mal connu, déformé ou idéalisé. Et Laurent Hulic est quelqu'un de très terre à terre, très pragmatique, comme le sont les chamans, hein, parce que le chamanisme, au départ, c'est pas un système mystique ou ésotérique ou New Age, hein. C'est des gens qui étaient très pratiques, c'était, il en allait de la survie de la communauté ou d'eux-mêmes. Donc là, on a parlé du chamanisme tel qu'il est fait à la FSS, parce qu'il est vraiment très représentatif de l'esprit du chamanisme. Et je pense qu'il y avait plus à apporter de ce côté-là que de reparler des théories psychologiques ou psychothérapeutiques que tout le monde connaît, il y a des tas de livres. Donc moi, je jouais plutôt à la fois... on peut pas dire le rôle d'une conscience, parce que Laurent lui-même est déjà largement, de par sa personnalité, son intelligence, conscience de ce qu'il dit. Mais c'était quand même pour apporter comme le point de vue d'un médecin formé donc à l'occidental, et de voir qu'un dialogue était possible, et qu'il y avait vraiment des ponts, des croisements, et que il faudrait vraiment décloisonner les choses. Parce que ce livre est un ouvrage, enfin, on va dire, de décloisonnement. On va arrêter de mettre d'un côté une chose, puis de l'autre, et puis de les opposer. Au contraire, on va les faire interagir, se synergiser, quoi, et c'est tout l'intérêt. La physique quantique, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que la matière est douée de conscience. L'univers est une immense conscience, en évolution, en développement, intelligente, qui a un sens, et que tout est relié dans ce champ de conscience, et que tout a un esprit, les plantes comme les minéraux, comme les végétaux, comme les animaux, comme les êtres de différents mondes. Et ça, c'est drôlement important, parce que la physique quantique, qui a montré qu'il y a des univers parallèles, ou qu'il y a de la matière et de l'antimatière, ou que quand on sépare deux photons qui étaient appariés, qu'ensuite on les disperse à chacun un coin de l'univers, si on touche à un, l'autre réagit instantanément, plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Donc c'est comme si c'était encore qu'un seul et même être. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, plus on monte dans le spirituel, plus les petites parties de l'univers, ou de la conscience de l'univers, ou de Dieu, ou de ce que vous voulez, ou se réunissent et forment une seule conscience. On le voit avec les psychédéliques, on le sent. On peut être quelqu'un d'autre, on peut être complètement empathique, complètement sentir ce que ressent quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, sa conscience et la nôtre sont reliées. Et ce que je fais à moi, je fais à l'autre, et ce que je fais à l'autre, je le fais à moi, c'est pareil. C'est qu'une illusion, on est séparé, on est dans la matière, dans la dualité, dans l'illusion de la séparation, mais tout est relié. Ça, c'est, la physique quantique le montre, le chamanisme le montre, et la pratique des états modifiés de conscience le montre.
Donc en fait, on peut dire que dans ce livre, vous jouez un peu le Candide, sans
oui,
que ce soit
peu,
trop...
Oui.
Voilà, bon, en ce qui concerne le chamanisme, et vous, sans cesse, on sent que vous êtes en train de chercher des ponts ou des ressemblances entre les deux pratiques, parce que vous aussi, donc dans votre cabinet, quelquefois vous utilisez des techniques, et on y reviendra après, mais vous dites quelquefois, je ne sais pas exactement ce que je fais, c'est comme si quelque chose faisait le travail en moi.
Oui, voilà.
Bon. Mais est-ce que la différence principale entre le chamanisme et... la thérapie telle que vous la pratiquez n'est-elle pas, somme toute, rationnelle, en fin de compte? C'est-à-dire, on sait que le chamanisme est quelque chose qui fait plutôt appel à l'irrationnel plutôt que la raison pure telle qu'elle est déifiée, entre guillemets,
d'accord,
ici en Occident.
Alors, on ne peut pas parler d'irrationnel, parce que si vous rencontrez Laurent Gly, vous verrez qu'il n'est pas du tout irrationnel, qu'il a les pieds bien sur terre, mais que le chaman est capable de travailler, et les gens qui explorent les établissements de conscience aussi, dans des univers qui n'ont pas la même rationalité. Mais c'est pas parce que ils n'ont pas la même rationalité qu'ils sont irrationnels. Moi, je dirais que c'est transrationnel, ce travail. Et que la raison, la logique, l'abstraction ne sont capables de capter qu'une petite partie des phénomènes qui se déroulent dans notre univers. Et qu'on a besoin d'autres outils, d'autres sens pour travailler avec l'ensemble des manifestations de l'univers. Donc c'est pas irrationnel du tout. C'est comme, au contraire, c'est une logique de s'ouvrir, c'est une logique de découvrir, c'est une logique de surprendre, c'est une logique d'accepter qu'on ne sait pas et qu'il faut d'abord essayer pour voir. Comme on dit toujours, il faut d'abord croire pour voir. Et quand on croit, souvent des choses s'ouvrent et les synchronicités arrivent et des phénomènes. J'aime pas le terme non plus paranormaux, parce que para, ça veut dire qu'il y a une vraie normalité, puis une qui serait perpendiculaire, je sais pas quoi. C'est des phénomènes d'une autre rationalité.
Avec ce livre donc publié, on le rappelle, chez Mama Édition, qui ressemble d'ailleurs assez dans sa structure au livre qui était sorti, qui s'appelait Plantes et chamanisme. Donc c'était un dialogue entre trois explorateurs occidentaux des mondes invisibles, en l'occurrence Yann Kounen, Jérémy Narbi et Vincent Ravalec. Et donc, dans ce livre, vous affichez publiquement un signe assez fort,
oui.
Je m'en explique.
Oui,
alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler quel rapport vous entretenez peut-être ou pas avec ces trois auteurs que sont Jérémy Narbi, Yann Kounen et Ravalec, que vous avez rencontrés, je pense, à Paris, à l'INRES. Et surtout, n'avez-vous pas peur des amalgames auprès des gens de votre profession? Autrement dit, comment êtes-vous perçu par vos pairs?
Ça, je dois vous avouer que comment je suis perçu par mes pairs, je m'en contrefiche. C'est-à-dire que on peut pas s'ouvrir en se demandant qu'est-ce que l'autre va penser. C'est son affaire, ce qu'il pense. J'ai pas besoin de mes pairs pour avancer, eux n'ont pas besoin de moi, sauf si ils veulent emprunter des voies semblables ou la leur, hein, peu importe. Donc ça, c'est vraiment pas. Ce qui sera embêtant, c'est que j'ai des ennuis avec l'ordre des médecins, ce qui a failli m'arriver avec le livre La médecine psychédélique et avec cette fameuse structure paranoïaque, comme je l'appelle toujours, psychothérapie vigilance, ou bien prévensecte, où dès que vous êtes plus dans les thérapies comportementales ou la psychanalyse, dès que vous touchez au corps ou aux émotions un peu trop, ça y est, vous êtes une secte. Alors j'ai appris que j'étais une secte à moi tout seul, quoi. Parce que j'étais sur prévensecte, j'étais mis dans secte. Bon, je suis fort, hein, c'est bon. Je dois être un super pouvoir de gourou, quoi, à distance, sans le vouloir, influencer et manipuler des gens, c'est génial, je suis très fort, je suis un grand sorcier. Non, mais plus sérieusement, donc, c'est pas bien sérieux, quoi, leur peur. Ils ont eu des problèmes, ces gens-là, et ils projettent sur les autres leurs problèmes. Bon, ben, à la limite, ils seraient tout seuls, c'est là, mais ils sont écoutés par des gouvernements qui, eux, ne connaissent rien, donc ils prennent les gens qui sont les plus voyants, qui s'agitent le plus, les épouvantails, donc souvent ils sont consultés alors qu'ils n'y connaissent rien. Hein. Bon, bref. Mais alors, par contre, pour parler de Jérémy Narbi et de Yann Kounen et de Ravalec, donc moi, effectivement, je les ai rencontrés une fois lors de la nuit de l'INRES sur le chaman. D'ailleurs, il n'y a pas de chaman à cette nuit de l'INRES, enfin, c'était la nuit chaman quand même. Bon, c'est des personnes très fortes, hein, qui ont un beau caractère, une belle aventure, qui ont chacun des domaines un peu différents, hein. L'un étant écrivain, l'autre cinéaste et puis l'autre anthropologue. J'ai bien accroché, enfin, avec chacun dans leur style, dans leur domaine différent, mais c'est vrai que je me sens plus proche de Yann Kounen. Je pense que c'est sa personnalité, c'est quelqu'un de très ouvert, de jovial, de bienveillant, enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti. Je dis que les autres sûrement ont de belles qualités aussi, mais j'ai senti plus ouvert, mais ça, bon, à la limite c'est mon affaire. Je sais que Et puisque Jérémy Darby a fait la préface, hein, enfin pas fait la préface, il a fait des commentaires qui sont inclus sur la couverture de notre livre, en disant que c'est un livre intéressant. Donc je sais qu'ils sont, ils voient pas ça ni comme une concurrence, ni comme quelque chose d'antinomique à leur approche. Mais eux, c'est vrai, ont plus parlé des plantes, et nous, on en a moins parlé. Sinon, quand on en a parlé dans le livre, c'est justement pour dire attention, non pas attention, c'est dans le sens que c'est mauvais, c'est dangereux, mais attention comment on les utilise. Et attention, c'est pas la seule façon de faire du chamanisme, loin de là. Donc c'est ça qu'on a voulu dire. Et parfois les plantes aussi, et ça on en parle dans le livre, l'inconvénient, on va dire, pour quelqu'un qui n'est pas préparé ou quelqu'un qui veut ensuite faire du chamanisme en plantes, c'est que c'est quand même des... Les plantes, c'est le monde du milieu, quoi. Il y a quand même une question de pouvoir. Elles vous canalisent un peu, mais dans le sens que elles ouvrent vos canaux, mais aussi elles occupent vos canaux. Et après, vous avez un rapport avec elles qui... Il faudra assez fort intérieurement être bien constitué pour avoir un rapport équitable avec elle, pour pas que ce soit elle qui vous dirige un peu. On prend l'exemple de la machine à café dans une entreprise. Si elle tombe en panne, c'est la fin du monde. Le rôle du tabac, c'est-à-dire toutes les plantes qui peuvent être chamaniques ou qui peuvent être des drogues quand elles sont mal employées. Parce que le tabac, par exemple, c'est typique, hein, c'est un instrument de mort dans nos sociétés, et c'est la plus puissante plante maîtresse en Amazonie, qui est très respectable, très respectée, et qui a des propriétés excellentes, mais pas prise comme on l'apprend nous.
Vous avez des projets ou futurs avec justement l'un des trois protagonistes?
Avec l'un des trois protagonistes, non. Avec Laurent, mais Laurent, il est en train d'écrire ce qui sera sûrement en langue française la plus grande encyclopédie des plantes chamaniques. Ça fait plusieurs années qu'il est dessus, il veut absolument terminer dans les 2 ans qui viennent, donc c'est pas sûr que je puisse réécrire rapidement le livre avec lui, mais je voulais faire... Enfin, je suis en train d'ailleurs de l'écrire, mais puis parce que je suis en train de le vivre dans la pratique, donc je suis en train en même temps de l'écrire, ça c'est inévitable. Un livre qu'on pourrait appeler de psychothérapie chamanique, c'est-à-dire comment on peut, en hypnose, en MDR, en faisant du magnétisme aussi, ou du Reiki, comment on peut utiliser les techniques chamaniques pour les potentialiser avec ces autres techniques. Ce sera un ouvrage pratique, ce sera une suite pratique. Oh, je voulais faire une sorte de chaman et le psy 2, entre tirer suite pratique, Laurent Aigli, Olivier Chambon, mais a priori, Laurent, il va être occupé par son livre, donc peut-être je vais le faire seul. Mais voilà, quoi. Parce que Laurent voulait faire une partie plus pratique, justement, un peu comme Sandra Engelmann l'a fait, sur, en pratique, les différents voyages, comment on les fait, la structure d'une séance de chamanisme. J'avais assisté à plusieurs reprises à ma maison de montagne, Laurent était venu, il avait vu certains de mes patients en thérapie chamanique, et j'avais noté la structure de ses interventions, il était d'accord avec ça, donc ça aurait pu faire un beau manuel pratique aussi pour les gens de la FSS, mais bon, on verra. En tout cas, moi, je vais sûrement l'écrire, la suite pratique de psychochamanisme.
Alors, dans ce livre aussi, vous êtes un peu sceptique envers la psychanalyse, hein. Vous-même, vous avez... Oui. Avant de pratiquer, fait quelques séances de, enfin quelques années même de psychanalyse, voilà. Donc vous mettez un peu, vous êtes un peu sceptique par rapport à la performance ou l'efficience de ces techniques, et vous semblez constater également dans ce livre les limites de la psychiatrie traditionnelle, qui est peut-être liée à l'absence d'humanité, au sens où le médecin originel est avant tout peut-être un guérisseur de l'âme.
Oui, mais enfin, je voudrais pas trop critiquer, parce que c'est jamais démarche constructive de s'apesantir sur la critique. Il vaut mieux développer les choses qui nous semblent intéressantes. C'est vrai, dans le livre, je dis que la psychanalyse, comme je dis dans le livre, je suis un peu dur avec elle, mais elle a été tellement dure avec les autres. Parce qu'à un moment, c'était vraiment l'apartheid au niveau des psychothérapies. C'est-à-dire, il y a la psychanalyse des blancs, et tout le reste, ils disaient, c'est de la suggestion, ça vaut rien, ça va pas assez profond, c'est les noirs qu'on a l'apartheid. Heureusement, on a retrouvé un équilibre maintenant entre les différentes psychothérapies en France. Mais c'est vrai que la psychanalyse, c'est sûr, c'est une belle aventure intérieure, on peut dire. Mais ça n'est le nom le dit, c'est psychanalyse, c'est pas psychothérapie. C'est une analyse du psychisme, mais qui n'est pas censé vouloir guérir tout de suite ou vouloir guérir tout court. Et c'est vrai que par opposition, le chamanisme, c'est une méthode qui se veut très rapidement efficace. Un chaman, d'ailleurs, il n'est respecté et il ne reste en place. Ou une survie même, parce que parfois ils tuent les chamans quand ils sont pas bons, non, mais ça c'est extrême, que s'il a des résultats rapides, à court terme. Donc ça peut paraître parfois brutal, des méthodes qu'il emploie, mais en tout cas ça ne l'est pas, parce que c'est toujours dans le souci d'aider l'autre à monter à un plan supérieur, à se libérer de la maladie, mais c'est beaucoup plus efficace. On disait que justement, je faisais une plaisanterie à l'INRES en disant que les psychanalystes... Ce qu'ils font, c'est visible, mais les résultats sont invisibles, alors que les chamans, c'est l'inverse. Ce qu'ils font, c'est invisible, mais les résultats sont visibles. Mais ça, c'est pour tirer un peu le bouchon un peu loin peut-être. Mais c'est vrai quand même que la psychanalyse a trop longtemps, elle obturait le paysage, prétendu tout comprendre, tout guérir, alors que c'est absolument pas le cas. Les études d'ailleurs, je parle pas des chamans, hein, les études sur l'efficacité des psychothérapies le montrent, hein, tout simplement, même dans le monde occidental, avec des protocoles tout à fait rigoureux et scientifiques, ils montrent que la psychanalyse n'est pas une méthode de soins à court terme, même peut-être à long terme. C'est bien, moi je regrette pas d'avoir fait ma psychanalyse, mais comme c'était marrant parce qu'à l'époque quand je faisais ma psychanalyse, juste après l'avoir fini, j'ai fait de la gestalt. Et c'était par week-end. J'ai fait ça sur 2 ans. Et à la première séance de gestalt, je me suis dit, mais j'ai plus progressé en un week-end de gestalt qu'en 3 ans de psychanalyse. C'était quand même drôle. Alors on peut dire, oui, mais vous avez été préparé par la psychanalyse. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment la méthode, la façon dont on est amené à ressortir nos névroses et à les travailler, qui est beaucoup plus expéditive, puissante, riche, humaine, effectivement, interactive que dans la psychanalyse.
Et en ce qui concerne la psychiatrie pure?
La psychiatrie pure, c'est ça qui est marrant, c'est que la psychiatrie pure, on veut pas dire que c'est pas de la psychothérapie, la psychiatrie pure. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les débats sur qui doit être psychothérapeute, est-ce que les psychiatres, les psychologues, ou les non-psychiatres, non-psychologues, ça n'a pas de sens, parce que la psychothérapie n'est pas la fonction d'un autre métier. C'est un métier à part entière. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on est psychothérapeute. À la limite, j'allais dire au contraire. On est plutôt déformé par nos études médicales. Et malheureusement, jusqu'à maintenant en France, le psychiatre, dans sa formation, n'a pas de formation réelle à la psychothérapie. Donc c'est quand même incroyable. Vous voyez? Donc la psychiatrie, c'est un monde. C'est comme un dinosaure, quoi. La psychiatrie, je veux dire, universitaire, la psychiatrie qui classe, qui met des traitements biologiques, qui se base que sur la psychanalyse ou les thérapies comportementales, c'est vraiment limité. Mais bon, il faut bien un départ. Au moins, l'avantage de la psychiatrie, par contre, c'est qu'on apprend à bien faire la différence entre la psychose, l'état limite et la névrose. Et que quand on a affaire à quelqu'un psychotique, on sait quelle réaction avoir. L'avantage de la psychiatrie, c'est qu'on ne fait pas trop de bêtises vis-à-vis des psychotiques. Parce que déjà, avant d'être psychiatre, il faut être passé à l'hôpital psychiatrique un certain nombre d'années, enfin passer, pas hospitalisé, mais pour travailler. Et que là, on voit beaucoup de patients psychotiques, et là, on est confronté à la réalité de ce que la psychose, et là, on perd des idéaux romantiques, et là, en psychothérapie, moi, quand j'étais dans un hôpital, j'avais développé les thérapies psychothérapie cognitives pour les psychoses. Mais ça n'est envisageable qu'avec l'aide d'une structure hospitalière ou au moins d'un CMP, d'un centre médico-psychologique, c'est-à-dire une aide extérieure. Mais dans mon cabinet, je ne ferai pas de thérapie pour les psychotiques, par exemple.
Donc vous avez passé quelques années en psychiatrie, et puis après vous êtes.
J'étais interne. Ensuite j'ai été chef de clinique. Et ensuite j'ai été praticien hospitalier. Et puis à un moment j'ai tout arrêté pour m'installer en libéral.
C'est ça.